C'est l'heure de notre tour d'actualité musicale avec...
À toi.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est minuit ici à Paris, 23h en temps universel. À la une de l'actualité, les Kurdes rentrent dans les rangs en Syrie. Damas annonce la signature d'un accord pour intégrer les institutions autonomes kurdes à l'État syrien. Cette entente a-t-elle un lien avec la récente résurgence des violences ? Décryptage avec un chercheur dès le début de ce journal. Israël maintient la pression sur la bande de Gaza alors que des négociations indirectes débutent à Doha. La poursuite d'un cessez-le-feu est en jeu. Lundi, Tel Aviv a coupé l'électricité à l'enclave palestinienne. Décision dénoncée par l'ONU. Au large de l'Angleterre, une importante collision entre un pétrolier et un porte-conteneur inquiète Greenpeace. Du kérosène s'est déversé dans la mer et un membre d'équipage manque toujours à l'appel. C'est une parole rare récoltée en Colombie avec celle des commandants de l'ELN. La guérilla du Nord-Est se dit prête à continuer la guerre contre le gouvernement colombien et dénonce fermement les politiques du président Gustavo Petro. C'est un grand pas vers l'unité syrienne. Lundi soir, Damas a annoncé un accord avec le chef des forces démocratiques syriennes, une coalition dominée par les Kurdes. L'entente prévoit l'intégration de toutes les institutions civiles et militaires kurdes au sein de l'État syrien. Depuis le début de la guerre en 2011, le Kurdistan syrien se gère de manière autonome. L'annonce de cet accord survient après plusieurs jours de sanglants affrontements dans l'ouest du pays, opposant les forces de sécurité à des fidèles du dictateur déchu Bachar al-Assad. Au moins un millier de morts civiles, principalement dans la communauté alaouite. Mais pour le chercheur Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS, il ne faut pas voir de lien entre ces deux événements.
C'est des négociations en fait de long terme. On approche du 15 mars. Le 15 mars, ce sera l'anniversaire de la révolution syrienne. Il va falloir montrer un pays qui a une certaine forme d'unité dans l'accomplissement de sa révolution désormais. Et au-delà des événements récents qui sont venus très clairement entacher ce sentiment qu'il y avait d'ouverture sur l'avenir, avec certes toutes les côtés sombres qui pouvaient demeurer, il y avait cette nécessité d'apparaître uni. Et probablement que dans ce calendrier qui était établi, il fallait montrer ce visage. Cette annonce tombe dans ce calendrier-là et doit être très probablement déconnectée des événements de ces derniers jours.
Le chercheur Cédric Labrousse au micro de Théo Renaudon et le chef des FDS a qualifié cet accord de vraie occasion pour construire une Syrie nouvelle. Au Proche-Orient, toujours, malgré le fragile cessez-le-feu, l'armée israélienne affirme avoir mené des frappes aériennes dans la bande de Gaza. L'état-major dit avoir visé des combattants qui enfouissaient des engins explosifs dans le sol à plus d'un endroit dans l'enclave palestinienne. Cette série de frappes est survenue le même jour où débutaient des négociations indirectes au Qatar. Une délégation israélienne s'est rendue à Doha pour discuter de la poursuite de la trêve avec le mouvement islamiste Hamas, mise en place le 19 janvier. Et faut-il y voir un moyen de pression ? Israël a coupé l'approvisionnement en électricité dans la bande de Gaza ce dimanche. L'ONU se dit très préoccupé par cette décision, une semaine après celle de bloquer les livraisons de carburant à Gaza. Sans électricité, impossible de faire tourner la seule usine de dessalement d'eau de mer de l'enclave palestinienne. Selon les Nations Unies, cette pénurie menace également les établissements de santé encore opérationnels et les boulangeries de la bande de Gaza. Le président ukrainien et le chef de la diplomatie américaine sont en Arabie Saoudite pour un important sommet. Volodymyr Zelensky devrait soumettre mardi un plan de cessez-le-feu partiel contre la Russie. Ce serait le premier en plus de 3 ans de guerre, selon des sources militaires ukrainiennes. Kiev proposera une trêve dans les airs et sur les mers, une suggestion jugée prometteuse par l'envoyé de Washington, Marco Rubio. Ce sera la première rencontre entre des officiels ukrainiens et américains depuis la visite désastreuse russe de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Depuis, les États-Unis ont suspendu les aides militaires et le partage de renseignements américains avec Kiev. En mer du Nord, un porte-conteneur et un pétrolier sont entrés en collision au large des côtes anglaises. Des images impressionnantes montrent un des bateaux ravagés par les flammes. Une trentaine de membres d'équipage ont été secourus, mais un marin est toujours porté disparu. Le cours des événements avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin.
Il est un peu moins de 10h du matin ce lundi quand un porte-conteneur portugais entre en collision avec le Stena Immaculate, un pétrolier qui dépend du ministère de la Défense américain, à une vingtaine de kilomètres des côtes du nord-est de l'Angleterre. Le pétrolier chargé de kérosène prend feu, plusieurs explosions retentissent et les services de secours sont dépêchés. Erreur humaine, manque de vigilance ou utilisation du pilote automatique, la cause de l'accident n'est pas encore déterminée. Côté environnemental, les autorités sont en train d'évaluer les dégâts potentiels. Une partie du kérosène se répand dans la mer du Nord. Le porte-conteneur Solong, lui, transportait du cyanure de sodium qui peut exploser au contact de l'eau. L'ONG de défense de l'environnement Greenpeace exprime son inquiétude, la région abritant, entre autres, la plus grande colonie d'oiseaux marins du Royaume-Uni. Cette partie de la mer du Nord est très fréquentée par les pêcheurs et les transporteurs. Ce lundi soir, les ports de la côte Est interdisent aux navires de quitter les quais. Emeline Vallondre, RFI.
Direction maintenant la Colombie, où la guérilla de l'ELN a accordé une rare interview aux médias. Tournée dans un lieu secret, dans les montagnes près de la frontière vénézuélienne, il s'agit du premier entretien depuis le début des affrontements à la mi-janvier. Deux commandants du front de guerre du Nord-Est s'en sont pris aux politiques du président colombien Gustavo Petro, qui tente de démobiliser tous les groupes armés de la région. Le compte-rendu d'Anne Verdaguer.
Les deux commandants sont assis, fusils à la main, autour d'eux une trentaine de personnes lourdement armées. L'un d'entre eux, qui se présente comme Ricardo, explique que l'ELN n'hésitera pas à combattre les 10 000 soldats de l'armée régulière colombienne rassemblés dans les environs.
Si davantage de militaires continuent d'arriver sur le territoire, il est fort probable que la confrontation persiste, parce que nous allons nous défendre en tant que force insurgée. Nous allons défendre notre histoire, accumulée depuis 50 ans dans le Catatumbo. Cette paix totale dont parle Petro se transformera finalement en guerre totale.
L'ELN, d'inspiration guévariste, mène une guerre contre l'État colombien et prend pour cible depuis la mi-janvier des dissidents des FARC dans la région du Catatumbo pour le contrôle des routes du trafic de cocaïne, ce que nie la commandante Silvana.
Nous avons besoin d'une économie qui ne nous stigmatise pas comme le fait l'État colombien en nous mêlant au narcotrafic. La politique de paix de Petro a été un échec. À ce stade, alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois au pouvoir, il n'a plus qu'une seule carte en main. Un prétendu dialogue avec ce groupe, le gang des FARC.
Les violences dans le Catatumbo ont officiellement entraîné le déplacement de près de 56 000 personnes et fait une centaine de morts.
Les précisions d'Anne Verdaguer. Nouvelle dégringolade en bourse pour Tesla. Lundi, le constructeur de véhicules électriques a chuté de plus de 15% à Wall Street. Depuis décembre, le groupe du milliardaire Elon Musk a perdu plus de la moitié de sa valeur. Ses prises de position radicales aux côtés de Donald Trump, son salut fasciste et son soutien des groupes et des partis politiques d'extrême droite a refroidi plusieurs acheteurs. Mais de manière générale, la tendance est à la baisse dans tout le secteur de la tech qui a fermé en forte baisse à la bourse de New York lundi. Et un autre marché qui est mal en point, c'est celui de l'art. C'est ce que révèle le rapport annuel Art Price publié ce lundi. Le produit mondial des ventes aux enchères d'œuvres a chuté de plus de 30% l'an dernier. En cause, la situation internationale instable et l'absence d'œuvres de grande valeur dans les ventes. Sophie Torlotin.
Vendu 121 millions de dollars, c'est l'Empire des Lumières, une toile du peintre belge surréaliste René Magritte, qui détient le prix record pour une œuvre d'art en 2024. Une somme pourtant inférieure au record 2023 décroché par Pablo Picasso. Mais l'an dernier, même Picasso n'a plus fait recette, avec des ventes mondiales divisées par deux. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, la situation politique incertaine aux États-Unis ont découragé la prise de risque ou les achats coup de cœur. Tout du monde moins sur le segment des œuvres les plus chères, car les créations les plus abordables, 600 euros en moyenne, ont entretenu les ventes en volume. Les jeunes collectionneurs, 39 ans d'âge moyen, plébiscitent les ventes en ligne, séduits par l'innovation et la création numérique. C'est d'ailleurs un robot humanoïde autonome qui a créé la surprise. Son portrait du mathématicien anglais Alan Turing, réalisé par une intelligence artificielle, s'est vendu pour 1 million de dollars, annonçant une nouvelle tendance, celle des œuvres créées avec l'IA, un outil qu'utilisent de plus en plus les jeunes créateurs.
Et ce sont ces précisions de Sophie Torlotin qui mettent fin à ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.